Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour, bonjour, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec mon invité Jordi. On va avoir une discussion, on va discuter ensemble sur la sexualité masculine. On va surtout discuter et échanger autour de quatre grandes questions, mais on va aborder plein d'autres choses. Et j'ai envie de vous partager maintenant les questions qu'on a abordées parce que ça va susciter votre envie d'écouter encore plus loin cet épisode. Donc ce sont des hommes qui posent ces questions. Est-ce que c'est grave de se masturber tous les jours? Suis-je un obsédé? Mon partenaire, je suis en couple gay, veut essayer l'anal sur moi, mais je ne suis pas prêt, que faire? Je suis un homme hétéro et j'aime être pénétré, mais je n'ose pas en parler à ma partenaire car j'ai peur qu'elle se moque de moi ou me juge. Enfin, ma partenaire a moins de désir que moi, est-ce que c'est normal? Que faire pour lui donner plus envie? On va aussi aborder le couple libre. Et on va vraiment discuter de ce qui se passe pour les hommes vis-à-vis de leur sexualité et ce qu'on souhaite pour les hommes dans leur sexualité. Une très belle écoute. La sexualité masculine comprend l'ensemble des aspects physiologiques, psychologiques et comportementaux de la sexualité des hommes. Que vivent les hommes réellement dans leur sexualité? Quels sont leurs questionnements, leurs attentes, leurs envies? Avec mon invité Jordi du compte Instagram Mister Rose, nous allons vous partager nos différentes expériences. Pour ma part, les retours que j'ai en cabinet de sexologie et pour Jordi, les témoignages qu'il reçoit des hommes dans ses DM et même aussi des femmes de ce qu'elles disent des hommes. Jordi est ancien animateur et journaliste radio. Aujourd'hui, il est créateur de contenu sexo et auteur d'un livre. Jordi, bienvenue sur Camille parle sexe.
Merci Camille, merci pour l'invitation.
Alors, un homme qui parle de sexe sur Instagram, ça donne quoi ?
Ça donne, j'ai envie d'être positif, donc ça donne de bons résultats, j'ai envie de dire. Ça donne de bons résultats dans le sens où c'est pas commun. Mm-hmm. Déjà parce que sur les réseaux de manière générale, quels qu'ils soient, alors moi je suis principalement sur Instagram, mais sur les réseaux de manière générale, que ce soit sur YouTube, TikTok, etc. aussi, il y a peu d'hommes qui s'emparent du sujet sexo. Ouais. Alors on peut fonder plusieurs théories là-dessus, mais y en a peu. En tout cas, il y a plus de femmes qui s'emparent du sujet. Et le fait d'être un homme qui parle sexo sous un angle positif, déconstruit, etc., je pense que c'est bien aussi, parce que ça permet à chacune et chacun d'aller puiser un petit peu dans plusieurs ressources et d'avoir peut-être aussi, à certains moments, des points de vue différents. C'est d'ailleurs un retour que j'ai eu il n'y a pas si longtemps en DM sur Instagram où il y avait un homme qui me disait « C'est marrant, je me suis jamais intéressé aux comptes sexo. » Et en fait, le fait que tu sois un homme qui parle de sexualité, Bah, tout de suite, je me suis dit, je m'abonne parce que je me dis que ça va plus résonner en moi que si c'était une femme qui parlait d'un sujet qui traite de sexualité masculine. Alors là, c'était vraiment dans ce cadre-là, c'est pour ça que je précise. Mais voilà, donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les affinités, donc c'est ça qui est chouette.
Ouais, c'est vraiment ça en fait. Il faut une pluralité parce que mon compte ne va pas parler à tout le monde et pas à tous les hommes, loin de là. Et puis bah, ton compte peut parler justement à ces hommes-là. Et comme là par exemple ce DM. Et à l'origine, quand tu as fait ce compte Instagram, est-ce que tu voulais t'adresser aux hommes ou alors pas forcément?
Ben à la base, oui. À la base, moi, je voulais m'adresser aux hommes. C'était mon objectif premier. C'est-à-dire que moi, je voulais faire en sorte que un maximum d'hommes puissent se remettre en question et se dire, voilà, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma manière, soit dans ma manière de fonctionner, soit dans ma manière de parler ou de ne pas parler de mes émotions, dans ma manière d'aborder la sexualité et les sujets sexo et relationnels de manière générale, etc. Enfin, c'était vraiment l'idée de départ. Puis au final, il se trouve que je suis suivi par beaucoup plus de femmes que d'hommes, même s'il y a des hommes qui me suivent, hein, mais en tout cas, c'est pas la majorité.
Ouais, non, c'est une minorité. C'est toujours ça ce qui revient. Tu vois, déjà, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont des comptes sexo et tu le connais très bien. Et on a un épisode avec Pierre et Léa qui a un compte sexo, Pierre. Et voilà, c'est les mêmes retours pour tout le monde. Déjà, pour les femmes qui ont des comptes Instagram sexo, bah, une majorité de femmes et vraiment une infinité d'hommes. Et la même chose aussi pour toi comme, je vais y arriver en tant qu'homme. Pourquoi c'est dur de les faire venir sur ces sujets-là?
Bah, je pense que déjà, il y a une construction personnelle et une éducation qui n'est pas forcément adaptée, on va dire, parce que concrètement, en tant qu'homme, et même moi pour l'avoir vécu sous certains aspects, dans l'éducation, ne serait-ce que dans l'éducation, on nous dit, alors j'espère que pour les nouvelles générations, ce sera différent, mais on nous encourage de manière plus ou moins insidieuse à ne pas montrer nos émotions, et quand on parle d'émotions, généralement, il y a une idée reçue qui associe ça à de la faiblesse, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc déjà, il y a un problème de communication, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que on retrouve beaucoup d'hommes qui ont du mal ne serait-ce qu'à aborder un sujet, pas forcément sexo en plus, hein, mais quel qu'il soit. Donc à partir de là, je pense que bah, effectivement, c'est plus difficile pour eux de venir ne serait-ce que poser des questions et d'obtenir des réponses sur les questionnements qu'ils ont en eux. Contrairement aux femmes où, bah, mine de rien, la société fait entendre que les femmes ont beaucoup plus de facilité à parler de leurs émotions, etc. Et c'est peut-être vrai dans un sens aussi, si on prend l'aspect éducationnel, éducatif là-dessus. Mais je sais qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler pour déconstruire tout ça et accepter de s'ouvrir à ces sujets-là, mais à d'autres aussi. Et moi-même, en plus, j'en parle, mais par expérience, parce que j'ai été un de ces hommes-là, c'est-à-dire complètement, complètement fermé, renfermé sur moi-même, à ne pas communiquer, à pas parler de mes émotions, etc., et avoir tout un tas d'idées reçues qui me faisaient du mal intérieurement, finalement. Et le fait d'avoir fait ce cheminement-là et d'avoir réussi à déconstruire les choses une à une pour sortir de ça, oui, ça fait le plus grand bien. Et c'est pour ça que j'encourage tous les hommes qui nous écoutent à faire cette réflexion-là, ce cheminement-là, peu importe le temps que ça prend, mais de le faire, parce que c'est vraiment ultra important pour l'équilibre personnel déjà, et c'est aussi important pour l'équilibre du couple par la suite.
Ouais. Et quel a été pour toi le déclic? Parce que comment on devient, donc voilà, comme je disais dans l'intro, tu as été animateur, tu es journaliste radio, comment on passe à la sexo? Quel a été le déclic aussi pour toi où tu disais, bah, tu étais voilà, le gars renfermé, qui parlait pas, qui communiquait pas là-dessus? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus pour toi ton cheminement?
Ben mon cheminement, alors déjà le cheminement professionnel, c'est vrai que j'ai été animateur et journaliste radio, c'était vraiment, ça fait partie des plus belles années professionnelles de ma vie parce que j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire ça. Puis ensuite, un peu malgré moi, je me suis tourné vers le marketing digital. Ça faisait partie de mes compétences de base, mais que j'exploitais pas plus que ça. Et à un moment donné, j'ai rencontré un petit blocage et je me suis dit, il faut que j'en apprenne plus, je stagne. Donc je me suis dirigé vers le marketing digital. Puis au final, j'ai appris plein de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur plein de choses différentes. Et un jour, comme ça, j'ai eu envie de créer un compte Insta pour le plaisir, donc uniquement pour mon plaisir personnel, donc purement égoïste. Et dessus, je partageais des citations en fait autour de la sexualité. Mais c'était des citations humoristiques, un petit peu comme peuvent le faire Cornichon, Langue Noire et compagnie. C'était comme ça, donc ça remonte maintenant, c'est il y a plusieurs années, c'était en 2018, je crois. Et puis, et en fait, comment j'en suis venu à parler de sexo sur les réseaux, c'est que, alors déjà, non seulement j'abordais la sexo, mais vraiment de manière très légère, c'était vraiment très léger. Comme ça, il n'y avait pas du tout d'objectif de conseil derrière tout ça. Et puis, un jour, il y a une personne qui est venue me contacter en DM, qui était un homme.
Ah.
C'est marrant. Et c'est la première personne qui m'a contacté en DM pour me demander des conseils, parce qu'il a rencontré un problème dans la sexualité dans son couple. Et moi, quand il est venu me contacter là-dessus, la première réponse que j'ai eu envie de lui donner, c'était, alors je suis désolé, mais je suis pas du tout la bonne personne vers qui te tourner. Et sauf que j'ai pas répondu ça. J'ai réfléchi un petit peu, puis je lui ai dit, je vais me baser sur mon expérience personnelle pour essayer de lui apporter mon aide, parce qu'il avait quand même l'air en détresse. Donc c'est pas cool de laisser des gens comme ça en questionnement, même si j'avais pas tellement de légitimité à parler de ça. Mais bon, bref, je me suis appuyé sur mon expérience personnelle. Puis une quinzaine de jours plus tard, cette personne est venue me revoir en me disant, merci, grâce à toi, on a sauvé notre couple.
Ah ouais.
Donc, super retour, moi j'étais très content, mais point, ça s'arrêtait là, quoi. Et finalement, alors je sais pas s'il y a eu un effet de bouche à oreille, mais j'ai reçu de plus en plus de messages de ce type dans mes DM, quoi, alors que j'avais qu'une centaine d'abonnés, tu vois, c'est une très petite communauté. Et je me suis dit, putain, c'est marrant que les gens viennent me poser des questions là-dessus. Du coup, j'ai fait une petite story et j'ai demandé en story, est-ce que vous êtes en demande de conseils sexo? Et la communauté de l'époque avait répondu oui à 96 ou 97%, quasiment unanime. Donc du coup, j'ai supprimé tout mon contenu, j'ai rebaptisé mon compte et je me suis dit, ok, je vais essayer de donner des conseils sexo, mais en me basant sur mon expérience personnelle uniquement. Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai appris plein de choses en discutant avec d'autres créatrices, d'autres créateurs de contenu, des sexothérapeutes, des sexologues, etc. Enfin bon, bref, du coup, j'ai appris sur le tas, ce qui me permet aujourd'hui d'être plus détaillé dans ce que j'écris. Et puis en ce qui concerne tout le cheminement que j'ai pu faire, etc., ben le compte Insta m'a beaucoup aidé, parce que le fait de recueillir plein de témoignages, etc., ça aide beaucoup aussi à avoir une vision globale de ce qui peut se passer dans les couples en général. Et puis ben, à titre un peu plus personnel aussi, c'est que moi j'ai eu des heures et des heures et des heures de discussion, notamment avec ma chérie, qui m'a énormément aidé à me poser les bonnes questions, en fait, à me poser les bonnes questions et en fait à extraire les problèmes de la masse, tu vois, un par un, et à les déconstruire petit à petit, à les déconstruire petit à petit. Et puis bah, c'est comme ça que j'ai avancé, en fait, et tout le cheminement s'est fait petit à petit jusqu'à une forme de déconstruction beaucoup plus générale. Et ça m'a énormément aidé, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis plus du tout le même homme qui a ne serait-ce que qu'il y a 5 ans, quoi. Ça n'a rien à voir, une autre personne, vraiment.
Une autre personne. Donc, ce déclic, pour toi, en tout cas, c'est via ton compte Instagram, via les témoignages, via tout ce qui se passait, tout ce que tu pouvais voir à l'intérieur de l'intimité des personnes qui t'a fait aussi réfléchir à une sorte de développement personnel et te remettre en question et de pouvoir apporter vraiment une vision beaucoup plus large, déconstruite, flexible de la sexualité.
Ben, c'est exactement ça, parce qu'aussi je suis parti dans le constat, c'est que on peut pas, ben, en tout cas c'était ma vision de l'époque et je pense qu'elle est toujours actuelle, c'est que c'est difficile et peut-être même illégitime de donner des conseils aux gens si on ne se les applique pas soi-même, quoi. Quand j'ai commencé là-dessus, il y avait des fois des petites dissonances entre ce que je pouvais dire, donc genre, faites ce que je dis, pas ce que je fais, il y avait un peu de ça. Et vraiment au tout début, et ça me posait problème parce que je me disais, mais je peux pas dire aux gens de partir d'un postulat et d'avancer sur certains sujets si moi-même je fais pas ce cheminement-là. Donc c'est vraiment tout s'est mis en ordre là-dessus jusqu'à trouver un équilibre à ce niveau-là. Ouais.
Ok. Et alors du coup, j'imagine c'est aussi à travers tous ces témoignages et tes lectures que est venu ton livre qui s'appelle Le sexe dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qu'est-ce qu'on peut y trouver?
Bah alors en fait déjà, ce qu'on peut y trouver, c'est un petit peu, l'idée de base, c'était de reprendre un petit peu ce que je fais sur Instagram, mais en beaucoup plus développé. L'idée, c'était de développer, évidemment, parce qu'Instagram, c'est bien, mais on peut pas s'attarder non plus sur trop de choses, parce que Instagram nous donne pas cette possibilité-là, dans tous les cas. Donc, et puis le vecteur que propose l'écriture d'un livre est totalement différent, donc on peut plus s'attarder sur les choses, etc. Donc, j'avais envie de développer certains sujets de manière voilà, beaucoup plus aboutie. Donc, ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je voulais aussi ne pas apporter de vérité toute faite aux gens, mais par contre je voulais que les personnes trouvent leur vérité au fond d'elles-mêmes. C'est-à-dire que dans le bouquin je pose des questions, mais ces questions, ces personnes vont se les poser elles-mêmes, ce qui va leur permettre de trouver leur propre vérité là-dessus, parce que les vérités sont multiples. Il n'y a pas de vérité toute faite dans la sexualité, dans les relations, etc.
Pouvoir pousser la réflexion via des questions et que les personnes se posent elles-mêmes pour trouver la réponse, ou le cheminement en tout cas.
Exactement, et puis le but c'était aussi bah, de pas forcément devoir relire le livre en intégralité pour revenir sur certains points. C'était aussi, voilà, à la fin de chaque chapitre, j'ai fait un petit peu les points essentiels à retenir, et ensuite il y a une série de questions sur lesquelles on peut revenir tout au long de la vie en fait, hein, pour se reposer, des questions qu'on peut se poser ou se reposer pour voir si les choses ont évolué, etc. Et puis le troisième point, c'est que dans beaucoup de livres, il y a ce que j'appelle l'exemple par l'image, donc des illustrations pour dire, ben voilà, telle technique, ça se passe comme ça, etc. Moi, j'avais pas envie de faire la même chose. Du coup, mon livre, il est un peu hybride, c'est-à-dire que chaque chapitre, donc théorique, que j'ai écrit est ponctué par une fiction érotique. Donc c'est un fil rouge qu'on suit tout au long du bouquin. Et on suit l'histoire d'amour, la sexualité et l'évolution d'un couple.
Wow, quel travail! Incroyable. Et du coup, alors par rapport à notre discussion d'aujourd'hui, là, j'avais envie qu'on puisse échanger, et j'ai regroupé quatre grandes questions, croyances, ou ce que j'entends qui revient souvent chez les hommes, soit en cabinet, soit en DM, qu'on puisse échanger là-dessus, les points de vue, nos hypothèses, etc. Et même pour les personnes qui nous écoutent, de se faire leur propre réflexion aussi vis-à-vis de ça. Alors, je vais juste citer déjà toutes les quatre questions, puis ensuite on les reprendra une à une. La première question qui revient souvent, c'est: est-ce que c'est grave de se masturber tous les jours? Suis-je un obsédé? Deuxième question: mon partenaire, alors là c'est dans un couple gay, mon partenaire veut essayer l'anal sur moi, mais je ne suis pas prêt, que faire? Troisième question, là c'est pour une personne, un homme hétéro, j'aime être pénétrée, mais je n'ose pas en parler à ma partenaire car j'ai peur qu'elle se moque de moi ou me juge. Et la dernière question, pareil, là c'est un homme, ma partenaire a moins de désir que moi, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je peux faire pour lui donner plus envie? Dans les grandes thématiques qui reviennent assez souvent. Alors la première, et là c'est des hommes, et je dirais peu importe leur âge, mais quand même j'ai l'impression que c'est quand même généralement autour de la vingtaine, mais bon, ça peut venir à n'importe quel âge, mais cette question, bah voilà, je me masturbe tous les jours, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je suis un obsédé?
Alors moi je serais tenté de répondre que, alors déjà ce n'est pas mal, parce que la masturbation fait partie de la découverte au sens large. On découvre son corps, on découvre une forme de plaisir aussi. Donc ce n'est pas mal, ce n'est pas sale aussi, comme on peut l'entendre encore aujourd'hui. Alors ça peut prêter à sourire pour certains, mais on l'entend encore quoi. La masturbation c'est sale, c'est quelque chose de mal vu, pas du tout. Pas du tout, et il y a beaucoup de personnes qui découvrent la masturbation dans l'enfance notamment. Donc voilà, c'est sûr que si on commence à partir du postulat que c'est sale, ça devient très compliqué. Ça peut donner lieu plus tard, à l'adolescence, à l'âge adulte, etc., des problématiques, à des blocages sur la masturbation quotidienne. Ça dépend de quoi on parle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que d'une part, il y a la masturbation quotidienne pour le plaisir ou pour d'autres raisons, déstresser, se reposer un petit peu, se sentir bien, c'est ce que j'appelle les bonnes raisons. Et après, ça peut devenir une problématique à partir du moment où la personne qui se masturbe tous les jours souffre. C'est-à-dire que si, y a une souffrance qui est engendrée, psychologiquement ou physiquement, on peut potentiellement, alors là c'est toujours pareil, mais peut-être que toi, appuiera plus ces propos-là, peut parler peut-être d'addiction, mais l'addiction, encore une fois, c'est compliqué parce que. Alors, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'avais lu une étude là-dessus, qui disait qu'on pouvait parler d'addiction au-delà d'une dizaine de masturbations quotidiennes. Je ne sais pas si dans les faits, on peut parler d'addiction au-delà de 10. Je ne sais pas si c'est vraiment quantifiable à ce niveau-là. C'est un peu compliqué, je trouve, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une base sur laquelle partir. Donc ça me paraît un peu bizarre.
Puis on peut en faire 10 par jour et être très heureux, que ça n'entrave pas notre vie. Ouais, après, c'est vrai que souvent dans les études en sexo ou même dans les critères, pour classer, pour catégoriser, il y a souvent la quantité. Et pareil, moi, je trouve ça des fois pas le plus juste. Mais par contre, ce qui est juste, c'est effectivement ce que tu disais. Est-ce que la personne est en souffrance? Est-ce que ça empêche cette personne de faire d'autres activités? Si, par exemple, en fait, c'est la masturbation, ça, même au travail, il n'y fait que penser ou même va se masturber sur son lieu de travail ou ça entrave sa relation parce qu'il fait que ça, il ne pense qu'à ça et souffre de ça, a honte et culpabilise, bah là, je pense que oui, effectivement, il faut aller consulter pour être aidé. Mais sinon, s'il n'y a pas de ça et c'est une fois par jour pour toutes les raisons que tu as citées ou des fois parce qu'on en a envie, on avait envie avec sa partenaire ou son partenaire et que bah, le ou la partenaire n'est pas disponible, bah, on se masturbe et c'est très chouette aussi, comme tu disais, un moment déjà à soi. On autonomise son désir. On prend un moment pour soi. Pareil, des fois, je trouve aussi certains hommes peuvent le faire un peu. Tu parlais des bonnes et mauvaises raisons, hein, je mets des guillemets, mais pour la mauvaise raison, c'est un petit peu par défaut. Genre, je me masturbe par défaut parce que bah, ma partenaire veut pas, donc je me masturbe par défaut. Et c'est tout un réapprentissage presque de réapprendre la dimension du plaisir dans se masturber aussi.
Mais complètement. Complètement, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et puis la masturbation... de manière générale, c'est sûr que si on la voit d'une manière négative à plein de niveaux différents, ça ne pourra nous apporter que du négatif. Il y a encore pas si longtemps de ça, moi je recevais un message en DM suite à un post que j'avais fait d'une personne qui était totalement en désaccord avec ce que je disais, à savoir qu'on pouvait se masturber même si on était en couple. Et elle était totalement en désaccord avec ça en disant non, mais si mon conjoint c'était une femme, si mon conjoint se masturbe alors qu'il est en couple avec moi, ça va pas, ça veut dire que je lui suffis pas, ça veut dire que quand on a des relations sexuelles ensemble, il prend pas de plaisir, etc. Donc en fait, c'est presque comme si on créait d'autres problèmes qui n'avaient pas besoin d'être là, finalement, tu vois.
Mais c'est bien que tu le soulignes, parce que aussi, peut-être dans cette question, est-ce grave de se masturber tous les jours? Certains hommes peuvent culpabiliser, parce que peut-être aussi, effectivement, pour certaines partenaires, c'est pas OK que leur compagnon se masturbe, parce qu'elles se disent, comme tu le disais, hein, déjà, peut-être certaines vont penser que c'est de la tromperie, certaines vont penser que bah, je ne suis pas suffisante, il a besoin de, voilà, il a quand même besoin de se masturber, ou alors il le fait en pensant à d'autres femmes. Mais tout ça, ça vient révéler des choses de la personne. Et tu parlais tout à l'heure aussi que la masturbation, certaines personnes peuvent le voir comme quelque chose de sale. On revient aux croyances et aux projections qu'on a, et c'est important de pouvoir travailler là-dessus aussi, en fait.
Ouais, mais carrément. Et puis c'est justement en travaillant sur ces points-là qu'on arrive à prendre de la distance sur les problématiques et éventuellement les résoudre derrière, quoi.
Donc voilà, on le répète, c'est tout à fait OK et c'est votre jardin secret, votre plaisir à vous. Vous avez le droit de vous masturber, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà. Alors la deuxième question, là, c'est un couple gay. Alors, il y a aussi cette croyance que les couples gays font automatiquement de la pénétration anale. Alors, je tiens à souligner que non, ce n'est pas automatique. Et pour certains qui sont dans des relations gays, justement, ne se sentent pas forcément à l'aise avec le fait d'être pénétré. Et du coup, là, c'est la question de cet homme. Mon partenaire veut essayer l'anale sur moi, mais je ne suis pas prêt. Que faire?
Moi, j'ai envie de répondre, écoute-toi avant tout, parce que c'est très important de s'écouter. Alors, que ce soit pour de l'anal ou pour toute autre pratique, finalement, s'écouter avant tout. C'est-à-dire que si cette personne pense qu'elle n'est pas prête, il ne faut pas forcer les choses, justement. Alors, je sais que parfois, ça peut être compliqué parce que dans les faits, on a toujours, souvent en tout cas, envie de faire plaisir à ça ou son partenaire et on peut avoir tendance à prendre un petit peu sur nous pour lui faire plaisir et se dire « bon, on va essayer ». Mais généralement, moi en tout cas, des retours que j'ai, c'est pas forcément la bonne approche parce que ça donne lieu la plupart du temps à des blocages. Donc c'est-à-dire que là, typiquement, si on prend cet exemple, si cette personne se force, admettons, on va dire ça, se force à vouloir tester l'anal alors qu'elle considère ne pas être prête, Ça peut donner lieu à une certaine crispation, potentiellement du coup à de la douleur. Et s'il y a de la douleur, le cerveau il va se dire ouais, moi c'est pas quelque chose que j'aime et j'ai pas forcément envie de réessayer par la suite, tu vois.
Oui.
Donc c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que déjà dans un premier temps, s'écouter, mais s'écouter c'est aussi en discuter, communiquer avec son partenaire de tout ça, communiquer et se dire essayer de savoir pourquoi je ne me sens pas prêt. Et pour le partenaire en question aussi, entendre que son partenaire n'est pas prêt peut-être, et le fait de discuter, ça va permettre de savoir qu'est-ce qui bloque éventuellement, et de pouvoir mettre en place des solutions qui vont permettre dans le futur de pouvoir éventuellement essayer, mais c'est encore une fois pas une obligation. C'est pas parce qu'on est en couple gay, tu le rappelais si bien, que la pénétration est obligatoire. C'est valable dans tous les couples. La pénétration n'est pas obligatoire. Il y a plein d'autres moyens de se faire plaisir de manière non pénétrative. Et voilà, donc c'est pas une fin en soi en fait, hein. On n'est pas obligé, même en tant que couple gay, d'aimer l'anal pour s'épanouir sexuellement.
Ouais, super, ouais, de s'écouter. Et c'est vrai, dans les couples gays, justement, et pour cette personne-là, et pour les personnes que j'entends quand elles disent ça, c'est parce qu'il y a ce stéréotype aussi, hein. Quand on est gay, on doit pratiquer l'anal, et donc je dois le faire si je veux être vraiment une personne, voilà, une personne gay, et c'est que comme ça, en fait, qu'on vit notre sexualité. Tu l'as dit, ben non, en fait, il existe plein d'autres manières, il n'y a pas que la pénétration. Le plus important est de s'écouter, de pouvoir échanger avec son partenaire là-dessus, que le partenaire puisse entendre. Qu'il y ait d'autres manières de faire aussi et d'y aller petit à petit pour pas se forcer, puisque si on se force, ça peut créer des douleurs et donc de l'anodyspareunie, hein, les douleurs anales. Et puis aussi créer une déconnexion dans le couple parce que bah, du coup, on fait des choses qu'on n'a pas envie, on se sent plus connecté à soi, plus connecté à l'autre et ça n'apporte jamais rien de bon sur le long terme, quoi.
Mais c'est ça, c'est totalement ça. Et c'est pour ça, faut vraiment l'écoute et la communication. Parce que c'est marrant, parce qu'on en parle tout le temps. Tout le monde dit, ouais, mais la communication, vous dites ça. Alors quand je dis vous, c'est créateur de contenu sexo, sexothérapeute, sexologue. Oui, vous prenez ça, vous dites ça comme si c'était la solution à tout. Mais je suis désolé de le rappeler, mais c'est en tout cas la majeure partie du travail à faire sur soi ou en couple, quoi. Enfin, je veux dire, la communication aide. La majorité du temps, la vraie communication, la bonne communication, à trouver des solutions et à sortir d'un problème.
C'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que maintenant, quand on parle de ça, ou pareil, hein, moi, c'est, je dis, bah, c'est l'écoute et la communication. Ça semble tellement dit et redit, et en même temps, il n'y a rien d'autre à dire finalement, parce que tant qu'il n'y a pas ça, désolé, mais on ne peut pas avoir une sexualité épanouie. Et oui, la communication, quand elle est constructive, quand elle peut être authentique, quand elle peut être vulnérable, mais en fait, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien d'autre. Donc, ça ne sert à rien d'aller acheter des sextoys et d'essayer de retrouver votre libido si vous ne vous penchez pas sur ça, en fait.
Mais exactement, c'est ça. Si on part pas de cette base-là, c'est même pas la peine, comme tu dis, d'aller explorer la suite. Ça ne fonctionnera pas, quoi.
Mais c'est plus confortable pour les personnes de passer peut-être par d'autres choses plus simples que de se pencher sur ah oui, d'accord, il faut qu'on communique.
Voilà. Après, on apprend de ses échecs ou de ses erreurs. Donc, on peut partir aussi de cette idée-là, se dire bon, peut-être qu'effectivement, on peut aller explorer d'autres choses pour apprendre finalement de nos erreurs ou de nos échecs et ensuite revenir aux fondamentaux et se dire bon, effectivement.
Totalement. Ouais. Oui, et c'est comme ça que souvent je retrouve des couples qui disent bah on a tout essayé. Et bah, ils n'avaient pas encore essayé la communication. Donc, bon, je rigole, mais des fois, justement, quand ils ont tout essayé, c'est que ça fait des années de frustration, de colère, et mettre de la communication quand il n'y a plus de patience dans le couple, c'est difficile aussi.
C'est ça, c'est compliqué, c'est prendre un peu le problème à l'envers. Du coup, ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile par la suite de défaire tous les nœuds qui se sont faits. Donc, ouais, c'est vraiment terrible et puis c'est beaucoup de temps perdu aussi. Donc, c'est pour ça, même là, je pense notamment aux personnes qui nous écoutent, qui sont célibataires et qui ont envie d'être en couple, parce qu'on n'est pas obligé de vouloir être en couple, mais qui ont envie d'être en couple et qui potentiellement le seront dans le futur. La communication, c'est la base et utiliser cet outil-là, dès le départ, ça vous évitera plein de problématiques.
Tellement, tellement. On préfère faire de la prévention que du curatif. Alors là, c'est un homme hétéro qui pratique. Alors ça aussi, c'est une pratique encore tellement taboue chez les hommes et chez les hommes hétéros. Voilà, l'anal, d'aimer être là, l'anal pour eux, hein, sur leur corps à eux, d'être pénétré. Alors je sais pas si c'est avec des doigts, avec des toys ou quoi que ce soit, mais il aime être pénétré. Il n'ose pas en parler à sa partenaire parce qu'il a peur qu'elle se moque de lui et ou qu'elle le juge.
Bah, on va revenir déjà à la communication, encore une fois. Alors, je sais que ça peut être compliqué pour beaucoup d'hommes de parler et de s'ouvrir et de faire part de ses envies, de ses ressentis, de ses émotions. Encore une fois, je suis passé par là, donc je sais ce que c'est. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi pour être passé par là, c'est qu'une fois qu'on l'a dit, ça va beaucoup mieux. Même si la réponse en face n'est pas toujours celle qu'on attend. Ça permet quand même de se décharger d'une émotion et d'une émotion négative. Donc c'est toujours bénéfique dans un sens, même si sur le moment, en fonction de la réaction qu'on a en face, on n'a pas cette impression-là, mais c'est toujours bénéfique. Ensuite, concernant le fait d'être pénétré en tant qu'homme hétéro, c'est encore compliqué aujourd'hui pour beaucoup d'hommes de vouloir s'aventurer sur ce terrain-là, parce qu'il y a une idée reçue, une fausse idée reçue, une fausse croyance, hein, encore une fois. Qui dit que si on se fait pénétrer, c'est qu'on est soit gay, soit on a des attirances homosexuelles, soit que sais-je encore, enfin il y a plein de...
Alors qu'on l'a vu, il y a des couples gays qui ne pratiquent pas la pénétration, hein, en plus.
Oui, non mais voilà, c'est ça. Donc c'est pas du tout lié à l'orientation ni quoi que ce soit, enfin ça n'a strictement rien à voir. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que, oui, il y a de plus en plus d'hommes, moi en tout cas c'est quelque chose que je ressens. Dans mes discussions sur Insta, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont envie d'essayer ça, parce qu'on parle de plaisir prostatique, parce que la stimulation de la prostate engendre du plaisir, lorsque c'est bien fait, évidemment. Et il y a de plus en plus d'hommes qui ont envie d'essayer justement la pénétration pour essayer de découvrir une autre forme de plaisir, peut-être une nouvelle forme de plaisir pour des personnes qui l'ont jamais essayé. Et en fait, en discuter, ça permet déjà... de faire part de son envie, puis de voir si potentiellement ça ou son partenaire a envie de nous accompagner dans cette expérience-là. Et puis moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que finalement, il y a beaucoup de femmes qui sont preneuses de ça, qui sont envieuses d'accompagner leur conjoint dans cette expérience-là, mais qui elles-mêmes n'osent pas le demander. Donc finalement, si personne ose en parler, on se retrouve dans une situation de blocage où finalement on teste rien, parce que
Personne n'ose.
personne n'ose, et puis c'est dommage parce que finalement tout le monde en a envie, mais personne ne le dit. Ça, c'est comme, tu sais, comme quand quelqu'un dit. Admettons, une famille de 6 personnes, il y en a un qui propose, on se ferait pas un resto ce soir, personne n'en a envie, mais tout le monde, pour pas le froisser, dit oui. Tu vois, c'est un petit peu la même chose, tu vois, tout le monde se force à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, donc là, en l'occurrence, ne rien dire, alors qu'au final, tout le monde converge vers la même pensée.
Ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que du coup, si on arrive avec la communication, encore une fois, bingo, c'est super facile. Et dans le cas où justement, tu disais, pour certaines femmes, voilà, il y a cette demande-là. Et puis pour certaines femmes, où c'est no way, j'ai pas du tout envie que mon partenaire fasse ça, que je le sache, que je le vois ou que je participe. Peut-être là, dans cette situation, comme il y a cette peur-là, je me dis. S'ils sentent peut-être cette peur, c'est peut-être qu'en face, ils sentent effectivement qu'il y aura des résistances ou peut-être que ce n'est pas un contexte suffisamment safe pour dévoiler ça. Là, dans ces cas-là, c'est un peu plus complexe quand même parce qu'on se dit, alors du coup, est-ce qu'il le garde pour lui? Mais imaginons que c'est une pratique qu'il a envie de faire avec elle. Il faudra quand même qu'il ose. Hein, et tout le monde compte Instagram, Mister Ose, je trouve, faudrait qu'il soit ce Mister Ose. Et ensuite, en face, si vous en discutez que votre partenaire... vous critique ou vous juge, déjà, ça, c'est pas forcément OK. Donc, de pouvoir en parler, en discuter, elle a le droit, évidemment, de dire que c'est pas son truc, c'est pas ses préférences et que vous pouvez le faire, vous, de votre côté, mais qu'elle, elle a pas envie d'y participer, c'est tout à fait OK. Mais par contre, que ce soit dans la bienveillance.
Oui, voilà, c'est ça. Il faut pas porter de jugement non plus. Et puis, parce que ce qui peut arriver aussi, et tu t'as totalement raison de le rappeler, c'est que si on est dans un contexte où la personne en face, notre partenaire, est dans une forme de jugement et commence un petit peu à créer une problématique autour de ça et potentiellement des blocages, donc en montrant du doigt, en disant mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que c'est, enfin en mettant, des fois il y a des couples qui remettent tout en question aussi sur le simple postulat qu'on a envie d'essayer quelque chose. C'est vraiment ultra difficile et puis ça donne pas envie d'explorer d'autres choses par la suite, même si on parle pas de ce sujet-là. Donc c'est ouais, donc comme tu le dis, vraiment en toute bienveillance, c'est ultra important de ne pas juger, puis bon, effectivement, c'est totalement ok de ne pas avoir envie de participer à ça, les raisons peuvent être multiples, Par contre, ça n'empêche pas cette personne de pouvoir découvrir ou prendre du plaisir de cette manière seule. C'est possible aussi.
Tout à fait. La dernière question par rapport à ça, ce petit partage. Alors là, bah, ouais, c'est la question du décalage du désir, tellement typique chez, j'ai envie de dire tous les couples, mais on va dire la plupart des couples. Ma partenaire a moins de désir que moi. Déjà, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle est normale de ne pas avoir vraiment de désir? Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui donner encore plus envie d'avoir envie?
Bah, c'est normal, oui, c'est normal dans le sens où, et là, sans distinction de genre, la libido fluctue tout au long de la vie. On a des périodes où on a la libido qui pète au plafond, et puis il y a des périodes où la libido est en berne. Il y a plein de facteurs qui jouent là-dessus, la fatigue, le stress, l'anxiété. Ça peut être aussi des facteurs, je sais pas, de l'alcool, les médicaments, les drogues. Il peut y avoir plein de causes différentes qui peuvent jouer sur la libido, la charge mentale. Enfin, on a tellement des vies chargées que, enfin, oui, c'est normal dans un sens que on ne puisse pas être au top tout le temps. C'est impossible, on n'est pas des robots, on est des êtres humains, on est doté de sentiments, on ressent diverses choses et la libido en fait partie. Et le fait que des fois, bah, il y ait des creux, fait partie de la sexualité aussi. Et quant au fait de pouvoir donner envie à son partenaire et tout, alors c'est un peu compliqué cette question parce que tout dépend de la raison de la baisse de libido, j'ai envie de dire. Parce que typiquement, si on part sur un problème de communication où une partenaire n'a pas de libido, mais parce qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les deux partenaires, que la communication est totalement rompue, c'est bien beau de vouloir donner envie derrière, mais c'est pas uniquement mécanique, quoi.
Non, ouais, des
Voilà.
fois on se focalise un peu sur le mécanique ou comme où la partenaire, si on creuse, bah, finalement elle dit mais moi j'ai plus confiance en moi, j'aime pas mon corps. Bah, c'est pas vous, bien sûr, vous pouvez toujours la complimenter, bien sûr, mais même en la complimentant, c'est pas ça qui va faire qu'elle va avoir confiance en elle et se sentir bien dans son corps. Donc il y a des limites finalement.
Voilà, c'est ça, c'est pas toujours suffisant, quoi. Enfin, je veux dire, un compliment, c'est pas la réponse à toutes les problématiques, quoi. Enfin, il y en a qui croient que c'est genre, bon, allez, ok, j'avoue que ces 2 dernières semaines, je l'ai pas trop complimenté, t'es belle, je t'aime. Ah, on a un rapport? Non, ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Et puis, il y a aussi un truc que moi j'aime bien rappeler aussi, c'est que c'est la personne qui a le moins de libido dans le couple, ou dans une période donnée, qui donne le tempo tout simplement parce qu'après faut pas se forcer quoi. Enfin, encore une fois, on y revient, hein. Faut pas se forcer à avoir des rapports pour faire plaisir à son partenaire, d'autant que on y revient aussi, bah, si t'as envie et que ta partenaire ou ton partenaire n'a pas envie, bah, rien ne t'empêche de te masturber, de prendre du plaisir seul, c'est aussi une possibilité. Donc, en soi, il n'y a rien d'obligatoire derrière tout ça.
Je te rejoins là-dessus et je me rends compte quand même que des fois je me retrouve un peu confrontée à, c'est vrai, une remise en question. Parce que pareil, je suis de l'ordre de, bah, en fait, c'est la personne qui a le moins de libido qui guide, hein, qui donne le tempo, etc. Mais bon, quand tu as ces personnes en consultation qui ont le plus de libido, c'est aussi, je trouve, légitime d'entendre que pour eux, bah, ça peut être frustrant, ça peut être déstabilisant, ça peut causer vraiment une réelle souffrance et ils sont là. Je suis d'accord qu'il ne faut pas la forcer ou quoi que ce soit, ça c'est très bien. Mais moi, du coup, je ne suis pas du tout pris en compte. Moi, en fait, moi aussi, je souffre de cette situation. Et vraiment, ce n'est pas évident parce que je n'ai pas à ce jour de recette miracle vis-à-vis de comment faire en prenant en compte tout le monde.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, hein. C'est un vrai dilemme, c'est compliqué effectivement de prendre en compte la souffrance chez les personnes qui ont beaucoup de libido et qui ont envie de partager un moment avec leur partenaire à ce niveau-là, parce que je dis la masturbation peut être une solution, mais c'est pas la solution. Ça peut être une solution parmi d'autres, hein. Alors, il y a plein de choses qui sont possibles, mais encore une fois, comme tu le dis, il n'y a pas de recette miracle, quoi. Alors, chez certaines personnes, faire du sport, ça va permettre d'évacuer une tension et donc de se sentir peut-être plus zen par rapport à ça, de pouvoir mieux gérer la frustration dans un sens. Il y a des personnes, ça va être des activités artistiques, ça peut être de la cuisine, je sais pas. Il peut y avoir plein de. Enfin, c'est un peu à chacune et chacun de chercher en soi les solutions qui pourraient l'aider à mieux gérer la situation, mais effectivement, il n'y a pas de recette miracle.
Ouais, c'est vraiment pas évident et c'est vrai que souvent, bah, du coup, on a sous le prisme, bah, c'est l'homme qui a le plus envie, la femme moins envie, donc Et puis, en tant que thérapeute femme, on peut avoir plus d'empathie, dire, bah oui, non, mais enfin, vraiment, il faut que, voilà, lui, on le met de côté, et puis elle, voilà, elle y va à son tempo, à son rythme. Mais dans le cas où, justement, là, c'est les femmes qui ont plus de désir, parce que oui, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont plus de désir que leur partenaire masculin. Et quand elles disent ça aussi, elles disent, bah moi, je suis en souffrance. Donc, bien sûr, on va aussi dire, bah oui, bah en fait, il faut respecter son rythme à lui. Mais elle, elle est en souffrance aussi, donc vous vous dites, bah oui, effectivement, si je suis dans cette situation, tiens, je peux comprendre qu'elle soit aussi complètement en souffrance, frustrée, déstabilisée. Mais voilà, il n'y a pas de... J'ai pas de... Donnez-moi votre recette.
Oui, oui, non, mais clairement, bah, franchement, si quelqu'un a une recette miracle, c'est clair qu'on est preneur, parce que franchement...
Non, on prendra pas, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est, on parle souvent, hein, de toute façon, aussi, le couple, c'est des compromis, des choses comme ça, alors... là, du coup, bon, on a fini avec ces questions-là, mais du coup, ça rebondit sur une autre question où, du coup, imaginons, voilà, ce couple est dans cette situation-là, peu importe l'homme ou la femme, ou peu importe si ce soit des couples lesbiens ou gays, un ou une des deux a plus de libido et pas l'autre, il y a une disparité. Maintenant, on voit de plus en plus des personnes qui vont dire « Bon, bah, notre solution, c'est d'ouvrir le couple. » Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça ?
Alors, j'ai envie de répondre que c'est une possibilité. C'est une possibilité, mais qu'il faut se poser les bonnes questions avant. On n'ouvre pas son couple comme ça, en claquant des doigts, en disant « ça va venir résoudre tous les problèmes ». Et puis même la majorité du temps, voire quasiment tout le temps, j'ai envie de dire, les personnes qui décident d'ouvrir leur couple pour résoudre une problématique, ça se pète la figure, tout ouais, le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que déjà, c'est un mode relationnel... qu'on connaît peu dans la société parce qu'il est assez tu. C'est-à-dire que les gens qui expérimentent ou vivent le couple libre de manière générale, alors, sans le cacher forcément, ne s'expriment pas tellement là-dessus. Donc on sait peu de choses à ce niveau-là. Par contre, sur les personnes qui en parlent, etc., c'est bien d'avoir les retours d'expérience pour savoir ce qu'il en est. Effectivement, si on souhaite résoudre une problématique en ouvrant le couple, ça se casse forcément la figure parce qu'on n'est pas prêt dans le sens où on ne peut jamais prévoir ce qu'il va y avoir derrière. On peut toujours se dire « je vais anticiper au maximum », mais dans les faits, et encore une fois, je suis bien placé pour en parler parce que c'est quelque chose que je connais, on n'anticipe jamais la totalité des choses qui nous attendent à plein de niveaux différents.
Oui, on peut déjà pas anticiper les émotions, comment on va se sentir. On peut se dire, ouais, je suis OK pour cette pratique. Puis en fait, une fois dedans, on ne sait pas comment on va vraiment vivre les choses. Hein.
On ne sait pas comment on va vivre les choses exactement, c'est ce que tu dis. Et c'est important de communiquer, encore une fois, énormément là-dessus avant d'ouvrir le couple pour savoir déjà si on veut ça pour de bonnes ou de mauvaises raisons, entre gros guillemets.
Ça serait quoi les bonnes raisons ? Je te coupe, mais tu vois, quelles pourraient être les bonnes raisons de se mettre en couple libre ?
Les bonnes raisons de se mettre en couple libre, pour moi, j'en vois plusieurs. Ce serait déjà un concept que j'aime énormément. C'est qu'on est propriétaire de son propre corps, c'est-à-dire on n'appartient à personne. Et par conséquent, on peut appartenir à qui on veut. Appartenir entre gros guillemets, hein. Quand je dis appartenir, c'est jouir de son corps avec qui on l'entend.
On est libre, voilà, notre corps est libre d'aller où il veut.
Voilà, exactement. Donc déjà, il y a cette idée d'appartenance qui est complètement pulvérisée. Et j'aime bien cette idée-là de dire, effectivement, personne n'appartient à personne. Et on a tendance à l'oublier aujourd'hui dans la société parce que le couple... ce qu'on appelle monogame, alors ça sous-entendrait que le couple libre ça voudrait dire être polygame alors que c'est pas du tout le cas, mais le couple traditionnel, donc deux personnes, l'exclusivité, le modèle exclusif serait vraiment la réponse à tout, et c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Je suis pas certain de ça. Par contre, je pense qu'il y a des personnes qui vivent très bien l'exclusivité et d'autres qui vivent très bien la non-exclusivité. Et en fait, encore une fois, c'est au couple de choisir l'équilibre qui convient le mieux. Ensuite, y a quelque chose qu'on peut voir dans le couple exclusif, qu'on ne voit pas tellement dans le couple non-exclusif, qui est que certaines personnes ont l'impression de ne plus être en capacité à séduire, par exemple. Donc, là où le couple non-exclusif, typiquement, le cas se présente pas tellement, parce que si on a la possibilité de partager un moment avec une autre personne, la plupart du temps intime, c'est qu'il y a une attirance réciproque. Donc déjà, ça vient gommer un petit peu ces questionnements qu'on peut avoir dans le couple exclusif. Et puis, il y avait un autre point que j'avais en tête, que je viens d'oublier.
Ouais, donc je résume en même temps, du coup, les bonnes raisons. Donc, dans les bonnes raisons, c'est justement, enfin, je veux dire, dans le sens où déjà, si c'est un couple qui a intégré cette dimension qu'on appartient à personne dans ce couple et que mon corps m'appartient et c'est tout et j'en fais ce que j'en veux. Oui, je suis d'accord avec ça, tu en fais ce que tu en veux, tu es libre, moi aussi je suis libre. Ça, c'est un couple OK. Enfin, bien sûr, après, il y a d'autres choses sous-jacentes, mais ça, c'est OK pour la relation libre. Par rapport à la séduction, alors ça, c'était peut-être pas forcément dans cette réponse-là des bonnes raisons, mais... Ou peut-être dans les couples qui ont envie ou ont besoin d'être dans de la séduction, de ce sentiment-là, qui peut exister dans les couples exclusifs, mais malheureusement, en fait, les couples ont tendance à oublier que ça se travaille, que ça alimente et que ça peut exister la séduction dans un couple exclusif long terme, mais sauf que beaucoup ne le font pas.
Oui, c'est ça, ça a tendance à être oublié, ouais, c'est ça le problème en fait, surtout, c'est que ça a tendance à être oublié, alors qu'on peut très bien séduire ou reséduire ça ou son partenaire, hein. Vraiment, je trouve pas le terme, mais concrètement, oui, c'est pas du tout antinomique, quoi, on peut vraiment séduire son partenaire, même en couple exclusif, quoi, il n'y a pas de règle là-dessus, il suffit, comme tu le dis, de travailler là-dessus et puis de le vouloir aussi dans un sens, parce que il y a beaucoup de gens qui croient qu'une fois qu'on est en couple pendant un certain temps ou marié etc que tout est acquis. À mon sens, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. C'est justement dès qu'on a ce genre de réflexion que le fossé se creuse et que on peut s'éloigner.
Ouais, surtout quand on entend, et ça j'entends plus du côté des femmes, où en fait je m'ennuie parce que il me prend un peu pour acquise et donc il y a plus de séduction, c'est toujours les mêmes choses. Moi, j'ai envie de me sentir vibrante, séduite, et il y a plus de ça.
Non, il y a plus de ça. Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et puis juste pour terminer sur le couple libre aussi, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui voient le couple libre comme une manière d'entretenir des relations sociales, au même titre qu'on ferait une sortie avec un ami ou qu'on prendrait du temps pour soi, pour lire un bouquin, etc. Là, il peut y avoir des rapports intimes, certes, mais ça peut être vu comme une relation comme une autre, en fait, sans forcément mettre autour de ça tout un paquet de négatifs. Voilà, donc c'est, évidemment, c'est toute une réflexion, ça relève même peut-être sur certains aspects de la philosophie. C'est une philosophie de vie, donc c'est quelque chose qui effectivement qui se travaille et ça se fait pas du jour au lendemain. Faut bien en discuter, savoir quels sont les tenants et aboutissants. Et puis c'est d'ailleurs pour ça aussi que beaucoup de couples établissent un cadre, des règles, pour pouvoir évoluer de manière plus sereine dans ce mode de vie-là.
Ouais, il y aurait tellement de choses à dire sur le couple libre, mais au moins c'est un aperçu de ça, que ce n'est pas forcément la réponse à tout non plus, parce que déjà que la relation exclusive, c'est déjà complexe, mais alors ce mode relationnel de non-exclusivité est encore plus complexe aussi, parce qu'on inclut, plus on inclut des relations dans la relation, plus il y a de la complexité en fait.
Mais c'est clair, c'est très compliqué, et effectivement, la plupart des personnes qui se mettent en couple libre, qui sont déjà en couple exclusif au départ et qui décident d'ouvrir leur couple, sont des personnes qui se connaissent très bien, qui communiquent facilement et qui ont une grande confiance l'un ou l'une en l'autre. Et c'est ce qui permet justement que tout se passe bien. Et encore, je dis tout se passe bien, ça n'enlève rien à certaines complexités, hein. Je veux dire, ces personnes-là ne sont pas protégées plus que d'autres.
De la jalousie, de la trahison, même s'il y a un cadre, des règles, on voit aussi dans les couples libres que finalement, même s'il y avait des règles, on va justement outrepasser cette règle-là, et donc sentiment trahison.
Ouais, non mais c'est clair, donc c'est pas si simple que ce qu'on peut croire, et c'est loin d'être la réponse à tout, vraiment très loin.
Ouais, exactement. Avant de poser ma question finale, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur la sexualité des hommes ?
Écoute, moi j'ai envie d'encourager les hommes à déjà pratiquer l'introspection, c'est-à-dire à faire un petit bilan. Allez-y, n'ayez pas peur de ça, posez-vous les bonnes questions. Qui je suis aujourd'hui, qui j'ai été avant, qui je vais être demain. Ça permet de savoir aussi vers quoi on veut tendre. Une fois que l'introspection est faite, éventuellement se remettre en question, Parce que la remise en question, alors déjà, elle favorise l'introspection aussi, mais elle permet de ne pas avoir d'acquis. Je dis ça dans le sens où la remise en question permet de se dire « Ok, j'ai peut-être commis des erreurs, j'ai peut-être essuyé des échecs, peut-être que ma vision d'avant ou ma vision d'aujourd'hui est erronée et j'accepte d'ouvrir mon esprit pour pouvoir travailler sur un point X, pour pouvoir évoluer sur... sur ma manière d'aborder les relations, ma manière d'aborder la sexualité, ma manière d'aborder ma relation avec moi-même aussi, sur le fait de pouvoir parler de ses émotions, parler de ses ressentis. Et vous allez voir que si vous commencez à vous ouvrir petit à petit sur ces sujets-là, ça va vous faire du bien malgré ce qu'on peut croire. Parler de ses émotions, c'est pas du tout une preuve de faiblesse. Moi, j'ai tendance même à penser l'inverse. C'est pas du tout une preuve de faiblesse et justement vous allez voir que ça va régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques que vous pouvez rencontrer aujourd'hui dans le quotidien dont vous n'avez pas forcément conscience en plus. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez commencer à vous ouvrir, tout va s'emboîter un peu comme un puzzle qui commence à se dessiner. Et puis ça vous permet aussi d'aller plus loin dans votre construction personnelle et de vous sentir plus épanoui à plein de niveaux différents. Et ça, c'est ultra important. Parce que la vie, c'est aussi ça, quoi. C'est apprendre à se découvrir, à rechercher son identité propre et à tendre au plus près de qui on souhaite être. Donc vraiment, voilà, si j'avais quelque chose à ajouter, c'est ça. Introspection, remise en question et ouverture à soi-même et à l'autre.
Et on encourage aussi du coup chaque homme qui écoute ce podcast à le repartager à un autre homme.
Ouais, ça serait super, ça.
Ça, c'est le truc ultime parce que c'est... on se dit, mais mince, déjà, c'est tabou de parler de la sexualité, mais alors, entre hommes, on n'en parle pas du tout. Mais se dire, j'ai écouté ça, ça pourrait être intéressant. C'est tout à fait OK, c'est courageux, ça va faire du bien, en plus, aux gens qui l'écoutent. Donc, on encourage vachement parce que, même toi et moi, on sait que quand on parle de ce sujet-là, et encore aujourd'hui, hein, pour ce podcast, on avait fait une boîte à questions sur Instagram. Combien d'hommes ont répondu à nos questions à nous deux ?
Zéro.
Zéro. Vous vous rendez compte ? Zéro. Et c'était adressé aux hommes. Je suis sûre, on refait la même boîte à questions pour les femmes. On en a des centaines et des centaines. Donc les hommes, bougez-vous. C'est pas évident, mais qui dit que c'est évident ? C'est jamais évident de toute façon. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut y aller. Il faut oser. Et c'est pour un mieux-être global, général, mais aussi pour vous. Pour ton message final, du coup, si les hommes devaient retenir qu'une seule chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, c'est quoi qui te vient en tête ?
On reprend tout depuis le début, ça serait ça. On reprend tout depuis le début, mais pas en mode genre, venez là, on va vous taper dessus. C'est pas du tout dans cette optique-là que je dis ça. C'est dans l'optique de genre, essayez d'abandonner tout ce que vous savez, ou ce que vous croyez savoir, tout ce que vous croyez avoir appris, toutes les vérités que vous croyez avoir en vous qui n'en sont pas. Et à partir de là, vous verrez que finalement, vous allez vous ouvrir... Un monde totalement différent qui va certainement remettre en perspective tout ce que vous croyez savoir par le passé et qui va être dans un sens plus proche de la réalité, quoi. C'est surtout ça. Et puis aussi, j'aimerais insister sur un petit point, c'est vraiment défaites-vous de toute toxicité à quelque niveau que ce soit, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps, j'étais invité dans un autre podcast où je parlais de masculinité toxique, donc c'est-à-dire tous les codes qui font des hommes, entre guillemets, aux yeux de la société. On y revient, on monte pas ses émotions, on ne communique pas, il faut être fort, il faut être solide, faut protéger une femme, faut protéger des enfants, faut ramener l'argent à la maison, enfin plein de trucs vraiment aberrants. Il faut oublier tout ça et accepter de revoir son positionnement sur toutes ces choses-là, donc reprendre tout depuis le début, refaire son éducation en fait, hein, dans un sens. Et même moi, je le dis, je suis passé par là, j'ai dû refaire toute mon éducation. Et c'est génial, parce que vraiment, je ne peux pas reconnaître le Jordi d'il y a plusieurs années, qui est incomparable avec le Jordi que je suis aujourd'hui. C'est une autre personne, mais tellement une autre personne que je pourrais dire que c'était vraiment pas moi-même, quoi. C'est vraiment hallucinant. Donc c'est possible, c'est vraiment possible, et c'est vraiment un super cheminement. C'est vraiment génial. C'est pas facile tous les jours, effectivement, mais une fois qu'on est sorti de tout ça, C'est vraiment génial.
J'adore, c'est encourageant. On reprend depuis le début et pour un mieux, vraiment, de ce que j'entends. Du coup, c'est incomparable, mais dans le positif. Donc, foncez, même si ça fait peur. Encore plus si ça fait peur, foncez, justement, en étant bien entouré. Et tout va bien se passer. Jordi, merci beaucoup. Je rappelle ton livre qui est sorti récemment, qui s'appelle « Le sexe dans la vraie vie, le guide sexo non censuré pour se défaire de ses idées reçues en matière de cul ». Il y a ton compte Instagram et ton site du même nom qui s'appelle Mr. Oz. Je mettrai tout ça dans les références. Un grand merci pour ton temps, Jordi, et pour tout ce que tu partages. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'attends vos retours sur ma page Instagram Camille Parle Sexe. J'attends vos retours pour savoir ce que cet épisode vous a apporté, si ça a peut-être suscité des nouvelles pistes de réflexion, peut-être même des solutions à certaines questions dont vous vous posiez. N'hésitez pas, si vous avez aussi envie d'entendre d'autres invités, de venir me les proposer. Enfin, je compte sur vous pour laisser des étoiles, de l'amour, des commentaires sur votre plateforme d'écoute, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. D'ici là, en attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.